Un cœur perplexe, par William John Locke. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Aucun mot ne rendrait la musique fluide de ces 9 syllabes tombant dans mes oreilles à travers l'immobilité et le noir. Pas très brillant, nurse. Imaginez quelque chose qui s'obtienne avec de l'eau vive et du clair de lune, et vous concevrez le clapotis mélodieux du rire qui me répondit. Je ne suis pas la nurse. Vous ne faites pas la différence. Je suis Miss Dean, la fille du docteur Dean. Du docteur Dean? Ignorez-vous donc où vous êtes? Tout se brouille encore tellement dans mon cerveau. Je me rendais compte vaguement que l'on m'avait transporté quelque part en chemin de fer, que l'on m'avait mis au lit, que des mains délicates avaient pansé mes yeux. Quant au lieu où j'étais, je ne le savais pas, et n'en avais cure. Les tourments de la cécité avaient suffi à m'occuper l'esprit. Vous êtes, reprit la voix, dans la maison du docteur Dean, et le docteur est le frère jumeau de M. Dean, le grand oculiste de Grantchester, lequel fut mandé à Shepton Marling le jour de votre accident. Peut-être savez-vous que vous avez eu un accident de tir? Et, d'un ton de sympathie, « Souffrez-vous beaucoup ?» demanda mon interlocutrice invisible. « Pas depuis que vous êtes dans la chambre. »« Mon oncle, » reprit-elle, jugeant que le logement de votre ami se prêtait mal au traitement que réclamait votre état, vous fit transférer à Grantchester. C'est ainsi que voilà où vous êtes. « Je ne comprends pas, » dis-je, « comment j'ai pu devenir votre hôte. »« Vous n'êtes pas mon hôte, » répondit-elle en riant. « Vous êtes entré ici aux conditions les plus sordidement commerciales. Votre ami, M. Mowbray, a réglé cela avec mon oncle. La maison est grande et la clientèle de mon père, petite. » De sorte que nous tenons une maison de santé pour les malades de mon oncle. Naturellement, nous avons d'excellentes nurses. Et vous-même en remplissez l'office? Pas précisément. Je gouverne la maison. Permettez que je redresse un peu ces oreillers qui vous gênent. Je sentis autour de ma tête et de mon cou la fraîcheur de ses mains à droite. Une seconde ou deux, mes yeux cessèrent de me faire mal, et je souhaitais qu'il me fût permis de la voir. Je lui exprimai ce souhait en la remerciant. Elle rit de son délicieux rire. Si vous pouviez me voir, vous ne seriez pas ici, et par conséquent vous ne me verriez d'aucune manière. Vous verrez jamais, soupirai-je. Mais sans doute, ne savez-vous pas que Henry Dean est l'un des meilleurs oculistes d'Angleterre? Nous discutâmes mon cas et la miraculeuse habileté de Henry Dean. Elle me quitta là-dessus en me promettant de revenir. Le son de sa voix sembla traîner dans l'obscurité comme un parfum. Ainsi débutèrent les choses. C'était de l'amour, non pas au premier regard, mais au premier son. Quand, à l'heure de ses visites, elle débitait les 1000 banalités qui sont d'usage dans une chambre de clinique, je l'eusse écouté plutôt que la musique des sphères. « Qu'est-ce que cela signifie ? » me demanda-t-elle un matin. « La nurse prétend que vous êtes nerveux et maussade. Elle insistait pour me torturer de ses attentions. Je meurs du désir de voir votre visage. Depuis quand, s'il vous plaît, mourrez-vous ? » Puis l'instant où, pour la première fois, j'entendis votre voix me demander « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? » Il est irritant d'avoir une amie et d'ignorer totalement ses traits. Puis votre voix est si belle qu'il faut que votre visage lui ressemble. Elle rit. Votre visage ressemble à votre rire. Si mon visage était ma seule fortune, j'aurais peine à me tirer de l'affaire, badina-t-elle. La nurse, alléguai-je mensongèrement, a serré un peu trop ce bandage. Je l'entendis se mouvoir et ses doigts s'empressèrent autour de mes yeux. Je levai la main et touchai ses doigts, elle écarta ma main d'une tape. « Ne faites pas le fou, » dit-elle. « Quand vous rentrerez en possession de vos yeux et découvrirez la jeune fille, on ne peut plus ordinaire que je suis, vous vous en irez comme les autres et ne voudrez plus me revoir. « Quels autres ? » m'exclamai-je. « Supposez-vous que vous soyez mon premier malade ? » « Parlez-moi de vous-même, » dis-je. « Je sais par le docteur Dean que vous vous appelez Valérie. » « Quel âge avez-vous ? » ?»« Oh » répliqua-t-elle en riant. « Je suis assez jeune, 23 ans. J'ai 5 pieds, 4 pouces et quelques tournures. Mais de mine, pas du tout, du tout. Décrivez-moi votre personne, » fis-je avec impatience. « Je dois savoir. J'ai le teint blafard et la peau défectueuse. J'ai le front bas. Mes sourcils et mes yeux courent de près en ligne parallèle, ce qui est affreux. Avec cela, une chevelure maigre et noire. Souffrez que je touche ? « Certes, non. Quant à mes yeux, ils sont d'un bleu humide de porcelaine et beaucoup trop petits. Mon nez, Lui, sans être absolument un méchant né, est un nez charnu. Un de ces nez indéfinissables et dénués d'aristocratie qui ont toujours l'air d'avoir pris un rhume. Ma bouche est grande. Je suis en train de m'examiner dans la glace. Et mes dents blanches. Oui, j'ai les dents jolies et blanches, mais larges et saillantes. Vous savez, les dents qu'on nous prête en France, dans les caricatures. Réellement, je m'aperçois en y songeant que je suis bien la Miss Anglaise des journaux comiques français. « Je n'en crois rien, » protestai-je. « C'est la vérité pourtant. »« Non, » dis-je, « car je soupçonne que vous calomniez à plaisir. D'ailleurs, la beauté ne tient pas à la régularité des traits, mais à la façon dont ils se composent. »« Oh, les miens ont une façon agréable de se composer. Je n'ai pas l'air trop acariâtre. »« Vous devez sembler la douceur même. » Elle soupira, et d'un ton méditatif. C'est un grand malheur pour une jeune fille que d'être aussi désespérément neutre. Le sentiment de cette infirmité lui tombe dessus comme une douche glacée chaque fois qu'elle sort avec d'autres jeunes filles. C'est le cas lorsque je sors avec ma cousine. Quelle cousine? La fille de mon oncle Henry. Dois-je vous parler d'elle? Je ne m'intéresse pas le moins du monde à votre cousine. Elle rit, et l'arrivée de la nurse mit fin à notre conversation. Je le confesse, j'étais gravement désappointé. La description que Valérie m'avait faite d'elle-même comme d'une personne à la figure disgracieuse et blafarde m'éveillait brutalement des rêves qui me la représentaient comme une radieuse déesse. Mais bientôt, une figure se mit à poindre devant moi, d'abord fuyante, et qui vint ensuite à se préciser peu à peu. Enfin, l'image s'illumina d'un éclat vif et brusque sur le champ de ma vision mentale, pour ne plus me quitter depuis. Sa persistance me convainquit de son exactitude. Elle était si belle que je pouvais, quand Valérie parlait, voir changer l'expression du portrait selon l'humeur de la jeune fille. La vulgarité du visage, pour ne pas dire sa laideur, me repoussait. Néanmoins, au bout d'un instant, des mérites d'un ordre supérieur me faisaient trouver à l'image une attraction particulière. J'y voyais briller au travers une âme tendre et vaillante. Une expression d'intelligence alerte rachetait les traits lourds, le front bas, le nez grossier, la bouche trop large. Et couché de mon long, pensant et imaginant, je vis se révéler à moi, dans un éclair, l'harmonie du visage et de la voix. Dès lors, Valérie Dean se revêtit à mes yeux d'une beauté singulière. J'aimais le cher visage neutre, autant que j'aimais la voix magnifique, et aussi le contact des doigts, et la féminité tendre et rieuse, et tout ce qui entrait dans le concept de Valérie Dean. J'aurais eu quelque audace qu'en plusieurs circonstances j'aurais déclaré ma passion. Mais une défiance naturelle m'incline à temporiser. Je perds généralement les minutes précieuses comme d'autres perdent généralement leur parapluie. Mais il n'est pas de bureau des objets perdus pour les minutes précieuses. Et cependant, je l'atteste, bien qu'entre nous il ne se fût rien articulé de précis, nos relations, quand survint le dénouement imprévu, étaient celles de deux fiancés. Mes yeux ne me causaient plus la moindre souffrance. J'étais levé, habillé, libre de circuler à tâtons dans les ténèbres. Demain, pour la première fois, après 3 semaines de réclusion dans cette chambre sans jour, je retrouvais brièvement la vision des choses. J'étais très gai. Valérie, au moment de sa visite matinale, me sembla très abattue. « Songez-y donc, » m'écriai-je, dans un accès d'excusable égoïsme. « Demain, je pourrai vous voir. C'est un bonheur après lequel j'ai langui comme après la vue du ciel bleu. » Le ciel bleu. Ah, ne parlez plus de ciel bleu, dit-elle. Je ne sais comment vous apprendre cela, continua-t-elle, tragique, après une pause. Je ne serai pas là demain. Une de mes tantes se meurt au pays de Galles. Je viens de recevoir un télégramme, il faut que je parte. Elle s'assit au bord de ma chaise longue et me prit la main. Ce n'est pas ma faute, ajouta-t-elle. Autant rester aveugle, vous connais-je. Je vous attendais à ce mot. Une larme tomba sur ma main. Faire pleurer Valérie, c'était cruauté de la part de sa tante. La brave dame n'eût-elle pas pu ajourner sa mort à des temps meilleurs? Je marmottai quelques mots d'honnête condoléance. « Merci, monsieur Winter, dit Valérie. J'aime beaucoup ma tante, mais je me complaisais à l'idée que vous alliez me voir. Et peut-être en a-t-elle encore pour des semaines. Elle resta longtemps à 2 doigts de la mort l'année dernière et finit par se remettre. Mais si je ne me presse pas, je vais manquer mon train. » Elle se leva. Je la sentis se pencher vers moi. Ses mains enveloppèrent mes joues et un baiser flotta sur mon visage. puis j'entendis le froufrou léger de ses jupes. La porte s'ouvrit et se referma, elle était partie. Pareil à Charles II, la tante moribonde mit à mourir plus longtemps que de raison. Le jour où un billet de Valérie m'annonça son prochain retour à Grantchester, je sortais déjà, muni de lunettes bleues. Des affaires urgentes m'appelèrent dans le même temps à Vienne. Des lettres que j'adressais à Valérie ne pouvaient être que de l'espèce la plus élémentaire. Qui possède un cœur d'une certaine capacité affective ne le vide pas au recto d'une feuille blanche. Le mien eût exigé des rames de papier. Je brûlais de les pendre tout entier en présence de Valérie à l'heure où mes yeux, pour la première fois, croiseraient ses yeux. Ainsi, hanté par le cher visage sans beauté et la voix mémorable, je restais inexprimé. Sitôt que mes affaires réglées, je pus quitter Vienne, je partis pour l'Angleterre dans l'intention de faire dardard visite à Valérie. Le matin même de mon arrivée, me vis à Euston dans le train qui allait m'emporter à Grantchester. J'avais télégraphié à Valérie pour colorer ma visite d'un prétexte, pris rendez-vous par dépêche avec mon oculiste, M. Dean. Je me trouvais seul dans le compartiment. Déjà, laissant loin derrière elle ce quai de gare, ma pensée me devançait de 4 heures à Grantchester. Pour la millième fois, je me représentais notre rencontre. J'imaginais des discours d'une brûlante éloquence. Je voyais se transfigurer les traits vulgaires. Je fermais les yeux pour retenir la bienheureuse vision. Le train s'ébranlait. Soudain, la portière s'ouvrit. Une jeune fille sauta dans le compartiment. Un homme d'équipe courant le long du train jeta à l'intérieur un sac et des couvertures et referma violemment la portière. La jeune fille était debout, me tournant le dos et toute haletante. Son bagage s'étalait sur le plancher. Je me baissai pour ramasser le sac. Elle fit de même. Nos mains se frôlèrent pendant que je cherchais le filet. « Oh, ne vous dérangez pas, je vous prie !» dit-elle d'une voix dont le timbre familier me fit battre le cœur. Je la regardai et les battements de mon cœur redoublèrent. C'était son visage. Le visage qu'avait lui dans mes ténèbres comme une aurore. Le visage que je m'étais pris à adorer. Je la regardais, figée de surprise. Elle gagna, indifférente, le coin le plus reculé du compartiment. Je m'assis en face et me penchant vers elle. « Vous êtes Miss Dean ?» questionnai-je avec un tremblement dans la voix. Elle se redressa comme sur la défensive. « C'est mon nom, en effet, » dit-elle. « Valérie !» m'écriai-je dans un élan. Mais elle, se levant à demi, « Où prenez-vous le droit de m'adresser la parole ?»« Je suis Harold Winter, » expliquai-je, déconcerté par son attitude. « Se peut-il que vous ne me reconnaissiez pas ?»« Je ne vous ai jamais vu, » répondit-elle aigrement. « Je n'ai de ma vie entendu parler de vous. J'espère que vous ne me réduirez pas à prendre des mesures pour me protéger contre votre impertinence. » Je me rejetai dans les coussins. L'étonnement me laissait sans haleine. « Je vous demande pardon, » fis-je, dès que je commençais un peu à me remettre. « Je n'entends être ni importun ni impertinent. Mais voici 3 mois que j'ai l'esprit occupé de votre visage. Et comme je vais tout droit de Vienne à Grantchester, afin de le voir pour la première fois, peut-être m'excuserez-vous de vous avoir adressé la parole. » Ses yeux cherchèrent vivement le cordon d'alarme. Puis revenant à moi, ils me regardèrent comme si j'eusse été fou. « Vous êtes bien, » demandai-je. « Miss Dean, de Grantchester, la fille du docteur Dean, oui. »« Valérie Dean, alors, oui. »« Dans ce cas, je ne puis dire qu'une chose, » m'écriai-je, perdant tout sang-froid devant cette dureté de roche. « C'est qu'on ne tourne pas la tête à un brave garçon pour refuser ensuite de le reconnaître. Une pareille conduite est outrageante, elle est odieuse. Il n'y a pas de mot pour la qualifier. » Elle était debout, la main sur le cordon d'appel et me fixant toujours d'un air glacé. « Décidément, j'appelle le chef du train. » menaça-t-elle. « Libre à vous, » répondis-je, « mais je me défendrai. Je montrerai vos lettres. Je n'ai pas l'intention d'aller passer la journée dans un poste de police. » Elle lâcha le cordon et se rassit. « Qu'entendez-vous par mes lettres? Qu'est-ce que tout cela signifie ? » interrogea-t-elle. Je sortis de ma poche un paquet de lettres et lui en jetai une. Elle parcourut d'un coup d'œil, tressaillit, comme surprise au plus haut point, et me la rendit en souriant. « Ce n'est pas moi qui vous ai écrit cette lettre. »« Si ce n'est pas vous qui avez écrit cette lettre, » dis-je, « j'aimerais en savoir l'auteur. Ma cousine Valérie. » »« Je ne comprends pas. »« Ce que je puis comprendre, moi, c'est que vous m'avez prise pour ma cousine. » »« Vos voix sont identiques. » »« Mais nos dehors ?»« Je n'ai jamais vu votre cousine. Elle m'a quitté avant que j'eusse recouvré la vue. Comment alors pouviez-vous dire que mon visage vous a occupé 3 mois la pensée? Je crains, Miss Dean, de m'être trompé en ceci, comme en tout le reste. Je parlais de son visage à elle, dont je m'étais fait une représentation mentale. Ma réponse sembla la stupéfier. Et c'est en vous aidant de cette image que vous espériez la reconnaître? Oui, dis-je. Je renonce à comprendre. Elle n'insista pas. Les affaires de cœur de sa cousine étaient chose trop délicate pour qu'elle se permît une incursion sur ce terrain. Et détournant la conversation, elle s'enquit poliment des circonstances qui m'avaient amené à consulter son père. Je lui parlai de mon ami Mowbray, qu'elle avait rencontré plusieurs fois dans la société de Grantchester. Mon crédit ainsi établi comme celui d'un homme sain et honorable, nous bavardâmes en amis. Je trouvais chez Miss Dean une femme accomplie. Nous causâmes livres, arts, voyages. Elle montrait une fantaisie amusante avec une de ces intelligences primesautières qui font continuellement la liaison du frivole au sérieux. Je ne me rappelais pas une personne capable de gagner ainsi d'emblée la sympathie. Elle avait de Valérie l'espèce de rire qui sent la forêt. N'eût été qu'elle différait essentiellement de Valérie par la note personnelle, par le son particulier qu'elle imprimait aux cordes de la vie, j'aurais tenu pour impossible qu'aucun être humain, sinon Valérie, fût assis en face de moi dans le coin du compartiment. Il y avait des moments où elle devenait Valérie elle-même. Devant les intervalles de mon illusion, j'examinais attentivement son visage. Qu'il manquât de charme, la question ne se posait pas pour l'observateur superficiel. Mais mon regard avait pénétré dans sa spiritualité profonde, et c'était entre tous les visages celui que je désirais. Vers la fin d'un trop court voyage de 4 heures, Miss Dean m'exprima gracieusement l'espoir que nous nous reverrions. « Vous m'avez fait trouver, aux heures que je viens de passer avec vous, la brièveté de 4 minutes. C'est m'avoir rendu un service dont vous avez le droit de tirer quelque orgueil. » Le train arrivait en ce moment en gare de Grantchester. Je déposai mon sac à l'hôtel de la gare et me fis conduire tout de suite à Staverton Street. J'oubliais Miss Dean. Mes pensées, mes désirs concentraient ailleurs sur cette autre Valérie, si tendre, si caressante de manière, et dont une subtile inflexion rendait la voix plus exquise même que celle que je venais d'entendre. La servante qui m'ouvrit la porte me reconnut et m'accueillit d'un sourire. Miss Valérie était au salon. « Je sais le chemin, » dis-je. Gravissant l'escalier d'un élan, je fis irruption dans le salon, et je m'arrêtai net sur le seuil en présence d'une jeune femme inconnue, merveilleusement belle. Majestueuse et mince, elle avait un front admirable, au-dessus duquel les cheveux ondulaient par masses lumineuses. Ses yeux, d'un bleu profond, comme des saphirs, brillaient comme des étoiles. À son teint, on eût dit d'un greuse. Ce quelque chose de diaphane qu'on prête aux fées se combinait chez elle avec ce rayonnement, cette splendeur de santé qui est la caractéristique délicieuse de l'anglaise. Je restai un moment muet de stupeur devant cette glorieuse apparition. « Je vous demande pardon, » bégayai-je enfin. On m'avait dit... L'apparition, immobile jusque-là devant la cheminée, sourit et s'avança vers moi la main tendue. « Mais oui, l'on vous a bien dit, Harold, je suis Valérie. » Mes yeux se brouillèrent. Le monde me parut rouler sans dessus-dessous. La voix d'enchantement me courait par les oreilles. Cependant, elle ne s'harmonisait pas avec l'enchantement égal du visage. Je tendis la main. « Comment allez-vous » fis-je, stupide. « N'êtes-vous pas content de me voir ?» questionna l'exquise jeune femme. « Certes, j'arrive de Vienne tout exprès. Mais vous avez l'air désappointé. Le fait est, balbutiai-je, que je m'attendais à vous voir si différente, si différente. Le visage que vous m'aviez décrit me poursuivait depuis 3 mois. » Elle eut l'effronterie de rire et ses yeux battirent de malice. « Vraiment, vous m'avez cru à ce point un objet d'épouvante. »« Vous n'aviez rien d'un objet d'épouvante, » rectifiai-je, me rappelant ma compagne de voyage. Et dans un éclair, j'eus l'exacte perception de sa conduite à mon égard. « Pourquoi m'avoir dépeint votre cousine au lieu de vous-même ? » « Ma cousine, comment savez-vous cela ? » ?»« Peu vous importe. Mais enfin, c'est elle que vous m'avez dépeinte. » C'est son visage que vous aviez à l'esprit en vous décrivant à moi. Comme par télépathie, l'image se transmit de votre cerveau au mien. Il y est resté. La preuve, c'est que tantôt, voyant une certaine personne, Je la reconnus tout de suite pour Valérie et qu'à ce titre, je la salue avec effusion. Il se trouva qu'effectivement, elle s'appelait Valérie Dean, ce qui faillit me mener devant la police, conséquence peu reluisante pour vous. Qu'aviez-vous à me tromper de la sorte ? Froissé comme je l'étais jusqu'à l'irritation, je parlai avec amertume. Valérie se dressa tout de son haut, très digne. « Si c'est une explication que vous me réclamez, soit, » dit-elle. « D'autres jeunes gens vous ont précédé dans cette maison comme malade. N'ayant rien à faire, ils s'amusaient et me fatiguaient à tomber amoureux de moi, de guerre lasse. J'avais décidé qu'il n'en irait pas ainsi avec vous. C'est pourquoi je vous ai tracé de moi une image infidèle. Et pour donner du corps à cette image, je lui ai choisi un modèle dans la réalité. Alors, vous n'avez fait tout le temps que vous moquez de moi ? » dis-je en reprenant mon chapeau et ma canne. Une expression de douceur adorable se peignit sur son visage. Sa voix redevint pareille au murmure du vent dans les forêts. « Non, pas tout le temps, Harold, » corrigea-t-elle. Je reposai ma canne et mon chapeau. « Pourquoi donc ne m'avoir pas détrompé tout de suite ?»« Je pensais, » dit-elle confuse. « Oui, je pensais que... Cela vous ferait du chagrin de voir que je ne suis pas trop laide. »« Il est vrai, cela me fait du chagrin, Valérie. » Et voilà le fâcheux de l'histoire. « Je vais tant appeler de mes voeux ce jour où vous me verriez, » gémit-elle, puis trépignant de ses petits pieds avec une violence soudaine. « C'est horrible à vous, horrible. Brisons-la. » Sa voix expira dans un sanglot. Elle se précipita vers la porte. Je voulus l'arrêter. Elle me repoussa et fondit en larmes. Misérable et tourmenté par les remords, j'errai dans Grandchester en attendant l'heure de mon rendez-vous avec Henry Dane. L'entrevue fut brève, et j'en sortis rassuré pour mes yeux. Miss Dean, en costume de promenade, me rencontra dans le vestibule au moment où le domestique me reconduisait. Nous sortîmes ensemble. « Eh bien, s'enquit-elle avec une sorte d'ironie, avez-vous vu ma cousine ?»« Oui, » dis-je. « Croyez-vous qu'elle me ressemble ?»« Plutôt ciel qu'elle vous ressembla, » m'écriai-je. « Je ne me sentirais pas à présent roulé comme un maelstrom. » Elle me regarda bien en face. Je lui savais gré de sa franchise dans le regard. « Vous plairait-il de m'expliquer vos paroles ?»« J'aime la personnalité d'une femme et le visage d'une autre, et je ne cesserai jamais d'aimer ce visage. »« Quant à la personnalité, Dieu le sait !» me lamentai-je. Elle sourit. « Je n'aurais pas attendu d'un homme qui s'est pris jamais d'un visage aussi désespérément neutre. »« Mais il est beau » criai-je. Elle me considéra d'un air singulier durant quelques secondes. J'eus la sensation d'une aventure étrange et surnaturelle qui m'arrivait. Brusquement, elle me tendit la main et me dit « Au revoir !» Je la regardai tourner vivement à l'angle de la maison, et la tête bourdonnant d'elle, je rentrai à l'hôtel. Je dînai le soir avec le docteur Dean sans trouver l'occasion d'un tête-à-tête avec Valérie. Une fois, elle me demanda pardon dans un murmure. Sa beauté, son charme eussent fléchi un fauve. Un cœur de neige eût fondu à la tendresse ardente de ses yeux. La pression de sa main, quand nous nous séparâmes, mit en fuite l'ancienne Valérie, et je connus que je l'aimais éperdument. Mais une protestation grondait en mon fort intérieur, parce qu'elle n'avait pas la figure de mes rêves. Je haïssais sa beauté. Sitôt la porte de la maison refermée derrière moi, ma tête se reprit à bourdonner du souvenir de l'autre Valérie. Je ne dormis pas de la nuit. Les deux Valérie se brouillaient, s'enchevêtraient inextricablement dans mes désirs et mes espérances. Quand l'aube glissa par la fenêtre de ma chambre sa clarté grise, la chimère s'évanouit, mais pour laisser mon âme dans le gris de l'incertitude. Puis la lumière d'un jour maussade gagna la pièce. Je me levai frissonnant et lamentable et m'enfuis de Grandchester par le premier train. On ne m'a pas revu à Grandchester. Me voici à Vienne, où je suis retourné de toute la vitesse de l'Orient Express. Je me couche en souhaitant que cette nuit dissipe mon doute. Chaque matin, je m'éveille dans la même terrible indécision. Que je me consume pour l'une des deux Valérie, c'est le seul fait certain de mon incertaine existence. Mais pour laquelle je me consume, c'est ce que je ne déciderai pas au prix même de la vie. S'il se trouvait une femme capable de résoudre ce problème, qui dépasse les moyens d'un homme, et de m'arracher ainsi au célibat perpétuel, elle acquerrait un droit imprescriptible à ma reconnaissance. Ainsi s'achève Un cœur perplexe par William John Locke.